Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. En quête de sens, Geneviève Delmarmol.
448 millions de tonnes de plastique ont été produites en 2017, dont une petite partie des déchets a été recyclée. Une infime partie est biodégradable, mais la majorité est enfouie, brûlée ou se ferait un chemin dans la nature, les rivières et les océans. Chaque minute, l'équivalent du contenu d'un camion poubelle est déchargé en mer. Une vie sans plastique est-elle donc possible ? Qu'en est-il du recyclage, de la dégradation, mais aussi comment agir au quotidien pour réduire la consommation des plastiques? Et quelles sont les solutions pour réduire l'impact de cette matière sur notre environnement? On va tenter d'esquisser une réponse ce matin dans Quête de sens avec mes invités. Et je suis heureuse d'accueillir Frédéric Dan et bonjour.
Bonjour.
Ingénieur, écologue de formation, journaliste, chroniqueur et auteur spécialisé des questions d'environnement. Avec nous aussi Gilles Rouvrant, bonjour.
Bonjour.
Fondateur de la start-up Les Joyeux Recycleurs. Qu'est-ce que vous faites ?
Alors, on propose une solution très simple de recyclage pour les entreprises, donc les petites et moyennes entreprises à Paris, région parisienne, pour les aider à recycler tous leurs déchets de bureau du quotidien. Donc, généralement, vous avez du papier, des gobelets, des canettes, bouteilles en plastique, justement,
voilà,
etc.
Le recyclage. Avec nous depuis Lyon, le professeur Jean-François Gérard. Bonjour, professeur.
Bonjour.
Directeur adjoint scientifique, Institut de chimie au CNRS et professeur à l'Université de Lyon. Frédéric Dan, en 1950, on a produit 2,3 millions de tonnes de plastique, c'est approximatif bien sûr, et en 2017, on en est à 448 millions. Alors pourquoi la production de plastique a-t-elle à ce point explosé ?
Parce que le plastique, c'est tout simplement pratique, parce qu'on n'a pas trouvé mieux pour transporter longtemps, pour transporter loin, pour transporter dans de bonnes conditions de conservation des produits alimentaires et n'importe quel autre produit. Le plastique a plus ou moins remplacé les autres types d'emballages qui existaient avant. Que ce soit le fer, le verre, le bois, par exemple, qui était cassant, qui était cassable, qui, vis-à-vis de l'alimentation, n'était pas tout à fait neutre. Donc, c'est pas un lobby qui a imposé le plastique. Le plastique a créé son règne lui-même parce qu'il était plus pratique que les autres emballages. Simplement, aujourd'hui, on en paye le prix, c'est celui de... On n'a pas fait attention, tellement le plastique est devenu évident qu'il en est devenu transparent, on n'y fait plus gaffe. Et aujourd'hui, on étouffe un peu.
Oui, Jean-François Gérard. Alors, les plastiques, ce sont en fait des polymères. Hein, et il y en a une assez grande variété.
Tout à fait. Peut-on rappeler ce que c'est qu'un plastique ? C'est
oui.
La forme, j'allais dire, vulgaire du vocabulaire pour dénommer des polymères qui sont extrêmement nombreux. Et on vient tout de suite de parler des emballages. Et les emballages ne sont qu'une des utilisations des polymères, en fait. Polymères qui sont faits d'un assemblage de petites molécules. Il se trouve que cette année, c'est les 100 ans de la découverte, en fait, et de la dénomination des polymères comme de grandes chaînes, on dit macromoléculaires, qui assemblent ce qu'on appelle des monomères, des petites molécules, par exemple le styrène, pour faire le polystyrène. Et donc, il y a 100 ans, Backland, un savant allemand, a défini en fait ce qu'étaient les polymères. Et depuis, effectivement, énormément de polymères ont été designés pour différentes utilisations. On vient de parler des emballages qui sont la face très visible de l'utilisation des plastiques. Mais en fait, les polymères, c'est les revêtements, c'est les éléments de carrosserie de votre voiture et d'intérieur, c'est les peintures, c'est énormément de choses, c'est les mousses, c'est tout ce que vous avez en fait autour de vous. C'est beaucoup d'utilisation aussi dans des domaines très haute performance, comme l'aéronautique, le médical, etc.
Voilà. Alors, dans les plastiques, les polymères qui sont dans notre quotidien, et on parle vraiment de tous les objets qui nous en tirent, qu'est-ce qui est toxique ?
En soi, les polymères eux-mêmes, une fois qu'on a polymérisé les monomères, eux-mêmes ne sont pas intrinsèquement toxiques. Ce qui va être toxique, c'est éventuellement des résidus de monomères, des résidus ou des additifs. On a tous entendu parler du bisphénol A qui était contenu dans le polycarbonate. Et donc maintenant, on a banni le polycarbonate dans des utilisations qui sont des utilisations à contact alimentaire. Mais heureusement, nous avons le polycarbonate pour faire des visières de casque, pour faire de casque moto, pour faire des phares de voiture, etc. Vous avez entendu aussi parler, il y a maintenant un plus grand nombre d'années des phtalates qui étaient utilisés dans les PVC, donc on n'utilise plus non plus dans les jouets, etc. Donc les polymères en eux-mêmes ne sont pas toxiques, en fait ils peuvent contenir des molécules toxiques souvent par accumulation aussi. En fait, je suis pas un toxicologue, mais il faut aussi non pas relativiser, mais avoir une vision, correcte de ce que des dangers auxquels on s'expose. Et comme votre interlocuteur vient de le dire aussi, ils ont contribué, par exemple, dans le domaine de l'emballage, à garantir une sécurité sanitaire en fait sur le transport de marchandises alimentaires d'une manière extrêmement importante. Et donc chaque fois, bien, on a des risques, des dangers. Je crois que l'utilisation même de tout matériau pose ce genre de questions.
Frédéric Dan, et chaque année, jusqu'à 13 millions de tonnes de plastique se retrouvent dans les océans, faute d'être recyclées. D'ici 2050, toutes les espèces d'oiseaux marins mangeront du plastique régulièrement. C'est ce qu'on lit. On parle d'un septième continent. Alors pourquoi tant de déchets ?
Pourquoi tant de déchets ? Parce que il y a des plastiques qu'on peut facilement recycler, comme les bouteilles d'eau, enfin les plastiques transparents. Il y a des plastiques qui sont difficiles à recycler, comme les barquettes. En fait, tout ce qui est de faible poids, tout ce qui est de composition multiple, tout ce qui coûterait extrêmement cher à recycler ne l'est pas. Alors ça va changer avec la loi qui a été votée, donc c'est pas très surprenant. C'est pas très surprenant qu'on ait des déchets. Il y a une telle multiplicité de formes de plastique dans notre vie quotidienne que ça passe à la trappe. Il faudrait en fait qu'il y ait une filière de recyclage pour chaque type de plastique dans tous les endroits du monde, et c'est impossible. Et le résultat est simple, c'est que j'ai voyagé, j'étais grand reporter pendant 12 ans dans tous les pays du monde. Vous retrouvez le même indicateur de développement qu'est le sac plastique, qu'on retrouve partout. Partout, moi je l'ai retrouvé partout, au fin fond du Sahara, au fin fond du Yémen, accroché à des arbres où il n'y avait pas de présence humaine a priori, vous avez des sacs plastiques. Voilà, s'il n'y a pas une filière de recyclage, s'il n'y a pas une benne à ordures, s'il n'y a pas une poubelle qui est ramassée régulièrement, vous aurez des déchets qui vont à la mer. D'une certaine façon, le plastique permet de voir les courants aériens, de voir les courants en marin, permet de montrer que tout finit un jour à la mer. Voilà où on en est. Alors quand on dit un continent de plastique, attention, c'est pas un continent physique. C'est quelque chose comme 8 millions de tonnes de plastique qui sont réduites à l'état de micro ou de nanoparticules, tellement le brassage est important en mer, et ça équivaut à peu près à 8 millions de tonnes. Voilà, qui finissent malheureusement dans l'estomac d'animaux, et même plus que ça, qui finissent dans l'estomac d'animaux, d'invertébrés, qu'on retrouve partout et même accrochés à la plupart des composants du plancton végétal.
Durée de vie du plastique, Jean-François Gérard.
Oui, je reviens sur les plastiques et les océans, parce que finalement, c'est malheureusement une bonne illustration en fait, de la diversité des polymères qu'on peut retrouver. Alors, je pense que dans l'océan, il y a des choses qui ne devraient pas y être. En fait, on sait qu'il y a des déversements à travers les fleuves, en particulier de polymères à travers des objets qui ne devraient pas se retrouver dans l'océan. Mais par ailleurs, il existe aussi finalement une pollution marine importante avec des polymères, des plastiques aujourd'hui où cette pollution, elle est aujourd'hui, il faut y réfléchir autrement. On sait que 30% par exemple des polymères qui sont dans les océans, ce sont en fait des résidus d'abrasion des pneus sur nos routes en fait, et qui se retrouvent dans les eaux pluviales, puis ensuite dans les rivières, dans les fleuves, puis dans l'océan. On a une pollution importante aussi. Il faut se poser la question. C'est un réel challenge. C'est les déchets de textile en fait. Quand vous lavez votre linge, en fait, des débris des fibres textiles, des fibres synthétiques que vous utilisez, le fameux nylon ou le polyamide ou les polyesters, en fait, ces petites fibres, des petits morceaux de fibres sont relargués à chaque fois et passent là aussi dans les eaux et dans les stations d'épuration, etc. et vont en fait se retrouver dans l'océan. C'est très différent ce genre de question que celui de savoir si on va, par exemple, aujourd'hui, il y a des premières réglementations sur l'utilisation, par exemple, de caisses de poissons, par exemple, pour les pêcheurs, où on va utiliser des caisses de poissons biodégradables, en fait, des choses comme ça, de façon à ne pas pouvoir les retrouver en mer. Donc ça, c'est vraiment une, il faut avoir une image correcte. Les scientifiques qui travaillent, en particulier ceux du CNRS, travaillent beaucoup sur dans ce domaine, justement pour faire un état des lieux finalement réel de quelles sont les questions réellement posées. Mmh. Les questions qui touchent à la fois la science, la dégradation des polymères, c'est-à-dire on peut aussi essayer de comprendre ce qui se passe et ce qui peut se passer avec la dégradation des polymères, parce que les polymères, en fait, se dégradent à des vitesses qui sont variables et se dégradent sous l'effet des rayonnements UV, donc on retrouve en mer, sous l'effet de l'eau, sous l'effet de sel, etc., donc de l'érosion aussi. Donc on a une dégradation qu'on connaît, qu'on comprend et que maintenant on peut mettre en situation de ces polymères dans les océans. Et puis par ailleurs, alors ça échappe aux scientifiques, on est plutôt dans le domaine de la culture, de la politique et de l'éducation, c'est aussi éduquer au recyclage et à l'usage en fait des polymères dans les bonnes conditions et les bons usages.
Oui, on y viendra. Gilles Rouvran, recycler dans les bonnes conditions.
Alors, ce qui est intéressant, ce qui vient d'être dit, c'est qu'en fait, il n'y a pas un type de plastique, mais vraiment une multitude de types de plastiques. Nous, très concrètement, dans les entreprises qu'on aide à recycler au quotidien, ce qu'on voit, il y a des plastiques facilement recyclables et qu'on peut collecter en quantité assez importante, des bouteilles en plastique qu'on consomme en entreprise, par exemple des gobelets. Par contre, on a énormément d'autres demandes de choses qu'on consomme dans l'entreprise. Donc, quand on prend un repas emporté, par exemple, on a un sac plastique, une barquette alimentaire. Absolument, qui peut être en plastique opaque ou transparente, ou parfois vous avez des restes d'aliments dedans. Voilà, des opercules en plastique, des pots de yaourt, des choses comme ça. Donc, c'est très varié. Donc, nous, ce qu'on voit, la complexité, c'est que en amont, il faudrait penser des choses, enfin, en éco-conception, de dire à quel moment est-ce qu'on peut remplacer le plastique. Quand vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire que le plastique, ça reste quelque chose de peu coûteux et d'assez efficace. Qu'est-ce qu'on peut remplacer par d'autres types de matières? Et si ce n'est pas possible, d'avoir une espèce d'uniformité dans le type de plastique qu'on va utiliser pour, en aval, le rendre plus recyclable. Plus on a des types de plastique uniformes, plus on va pouvoir aller voir concrètement une usine de recyclage pour lui dire, écoutez, j'ai ce type de plastique en très grande quantité, est-ce qu'on peut le recycler? Concrètement, par exemple, nous, sur les bouteilles en plastique, quand on les collecte chez nos clients, le processus de recyclage va être assez simple. Les bouteilles sont broyées, nettoyées, ça fait des petits filaments en plastique. Ça va être refondu, tout simplement. Et après, ça peut reformer une nouvelle bouteille en plastique. Donc là, il y a quelque chose d'économie circulaire. On peut réutiliser ce plastique pour en refaire du nouveau plastique. Par contre, pour plein d'autres petits déchets, type fine plastique, des barquettes, des choses comme ça, les quantités sont tellement infimes et tellement variées que le coût de collecte, si vous voulez, de se déplacer avec un véhicule pour aller collecter ces très petits flux, ça ne va pas forcément être rentable et utile à la fin.
Éco-conception, un terme à préciser, Frédéric Danhé.
C'est conçu, c'est un produit qui est conçu de façon à ce qu'il soit dès le départ pensé pour être ou réutilisé, ou réparé, ou recyclé. C'est important parce que ça a été intégré dans la loi qui a été très très mal présentée par le gouvernement. Vous savez, la loi dite Brune-Poirson qui avait affiché la chose en disant il n'y aura plus de plastique en France en 2040, ce qui a fait rire tout le monde parce que 2040 c'est pas du tout une obligation. Enfin 2040 c'est tellement loin qu'on fait ce qu'on veut. Mais en fait la loi est vachement intéressante parce que elle oblige de fait tout produit importateur ou metteur en vente de produits comportant des plastiques à prévoir dès le départ, dès leur conception et en tout cas dès la vente, la mise en vente, le recyclage. C'est un peu une révolution, c'est-à-dire qu'on étend la responsabilité du producteur à pratiquement tout et ça va tout changer. Je crois même que dans les entreprises, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il y a une interdiction. Il y aura une interdiction, par exemple, au 1er janvier 2021, ça paraît anodin d'avoir des gobelets et des bouteilles en plastique. Voilà. Et vous savez, j'ai fait 10 ans de radio sur France Inter. France Inter ne cesse de donner des leçons de morale à la terre entière sur les questions d'environnement. À France Inter, on utilise toujours des bouteilles en plastique.
Et les touillettes en plastique.
Et les touillettes en plastique. Et rien n'est recyclé. Rien à France Inter, Radio France, strictement rien n'est recyclé. On ne sépare pas le papier du plastique.
On va leur donner le lien des joyeux recycleurs.
Voilà. Il y a du boulot.
Tout ça a un coût, évidemment, recyclage et collecte.
Nous, très concrètement, aujourd'hui, on a un peu plus de 1000 clients à Paris, région parisienne. Donc, c'est des sociétés de quelques personnes à quelques dizaines ou centaines de personnes sur un site. Comme je disais, on peut recycler différents types de plastiques, des gobelets, des bouteilles, d'autres matières, type canettes, papier. Et bien, c'est un coût d'une part de déplacement, c'est-à-dire qu'on va aller avec un véhicule. Alors, parenthèse, justement, on a des véhicules historiquement qui étaient au diesel. Là, on passe au GNV. On se rend compte que c'est très difficile. La mairie de Paris va nous obliger d'ici 2024 à avoir des véhicules au GNV. On vient d'en acheter deux nouveaux. C'est impossible de trouver des stations pour se ravitailler. Donc, on fait 30 km pour faire un plein de GNV. Donc, voilà, c'est un petit peu aberrant.
Oui, c'est toujours plein de contradictions. Voilà.
C'est avec plaisir pour aller vers le GNV, mais c'est compliqué. Donc, voilà, il y a ce coût de transport pour aller chercher. Alors, nous, on a beaucoup de clients à Paris, donc c'est très dense. C'est-à-dire que dans une même rue, on va avoir un ensemble de clients. Donc, on limite vraiment les déplacements. Après, ben, y a un coût de stockage et de transformation de la matière, si vous voulez. Donc, nous, par exemple, quand on a créé les joyaux recycleurs, l'idée au démarrage, c'était de dire, est-ce qu'on peut proposer un service de recyclage gratuit où la revente de matière, par exemple les papiers ou les bouteilles, ça peut avoir une valeur à la revente, ça va payer notre service. Sauf qu'aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, ça nous rapporte zéro ou on ne perd pas d'argent avec la revente des déchets, ou au mieux, ça rapporterait 1% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de facturer ce service à nos clients qui recyclent non pas pour des effets de communication ou autre, mais vraiment de manière intrinsèque parce qu'ils ont envie de recycler dans leur entreprise. Leurs salariés font souvent des choses à domicile chez eux. Ça se transfère, cette volonté, au niveau de l'entreprise. On a maintenant envie que l'entreprise agisse plus sur l'environnement.
Allez, on continue cette conversation sur le plastique. Peut-on, au fond, le remplacer? Nous sommes ce matin avec Frédéric, le journaliste Frédéric Dan, et avec Gilles Rouvrant, des joyeux recycleurs, et avec le professeur Jean-François Gérard depuis Lyon. On se retrouve après cette première petite pause.
En quête de sens, 01 56 56 44 00. Culture Club.
Bonjour à tous, c'est Victor Loupan. Culture Club, c'est le nouveau magazine culturel de Radio Notre-Dame. Tous les jours à 11h, nous allons parler ensemble de littérature, de peinture, de cinéma, de spectacles, de séries télévisées, de tout ce qui concerne la culture, avec des invités, avec des chroniqueurs que vous connaissez déjà et d'autres que vous apprendrez à connaître. Tous les jours à 11h, donc Culture Club sur Radio Notre-Dame.
Laissez le froid et le bruit dehors et ne laissez entrer que la lumière.
Avec la Maison de la Fenêtre, gagnez en confort de vie avec des fenêtres haute performance en bois, PVC ou aluminium.
Volets roulants, portes, stores et fenêtres, avec la Maison de la Fenêtre, valorisez votre patrimoine, faites des économies d'énergie et profitez des nouveaux crédits d'impôt valables jusqu'au 30 juin.
La Maison de la Fenêtre, à Villejuif, 01 42 11 03 03.
La Maison de la Fenêtre, certifié Calibat et RGE.
Alors, tu as trouvé un artisan pour ta toiture?
Mieux que ça, j'ai trouvé JM Compagnon.
C'est qui ce JM?
Ce n'est pas un simple artisan, c'est un compagnon au service de votre habitat.
Ah, ok.
Leur champ d'action est vaste. Couverture, charpente, zinguerie, entretien du toit, isolation, ravalement. En neuf et rénovation, ils interviennent sur Paris, Île-de-France. Et ils proposent même de te dépanner dans la journée pour tous tes problèmes de toiture. JM Compagnon, 06 13 33 46 37 ou sur jm-compagnon-couvreur.fr. Devis gratuit.
En quête de sens, Geneviève Delmarmol.
Et nous parlons du plastique ce matin. Et peut-on au fond le remplacer? Que faut-il faire? Frédéric Danhé est avec nous, ingénieur écologue de formation. Il est journaliste et chroniqueur. Nous avons aussi Gilles Rouvrant, fondateur de la start-up Les Joyeux Recycleurs, et le professeur Jean-François Gérard du CNRS et de l'Université de Lyon en ligne avec nous. Professeur Jean-François Gérard, quels sont au fond les types de revalorisation de nos déchets plastiques? Les grandes lignes, hein, les grandes...
Vous avez souligné en fait la difficulté effectivement de collecter, avec les difficultés de circuit de collecte, et puis la difficulté aussi de collecter des quantités suffisantes dans des conditions qui permettent leur recyclage. Par exemple, les bouteilles, l'utilisation des bouteilles de PET, par exemple, le recyclage du PET est quelque chose d'assez aisé en fin de compte, mais qui va nécessiter toutefois de retravailler la matière, de la repolymériser, comme l'on dit, de façon à remonter un petit peu ses propriétés, puisqu'elle aura subi à la fois la transformation et les usages, et l'usage par sa vie. Et donc, certains circuits de collecte sont assez bien maintenant définis. Dans l'automobile, par exemple, on recycle assez facilement. L'automobile, on a une expérience avec Plastic Omnium, par exemple, que vous connaissez avec les poubelles, en fait, dans la rue, mais qui est aussi un équipementier automobile. Aujourd'hui, il fabrique des pare-chocs de voitures, en fait, de la 308, avec des polymères recyclés issus à la fois des poubelles et des pièces automobiles parfaitement identifiées. Parce que là, vous avez un gisement qui est un gisement important, bien identifié, facilement organisable. Et pour d'autres, ça va être plus difficile. Donc, en fait, dans les différentes voies, pour répondre à votre question, dans les différentes voies de valorisation, il y a effectivement celle de la réutilisation après des traitements qui vont quand même peser sur l'environnement, là aussi. Ça va être du nettoyage, ça va être du lavage, c'est de l'eau, c'est de l'énergie. Donc, il faut penser à cela aussi. Et puis, on va refondre la matière pour la réutiliser. C'est le cas des thermoplastiques. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce sens. Il y a la voie de compostabilité, c'est-à-dire on a des polymères qui sont compostables. Un polymère qui se substitue aujourd'hui au PET des bouteilles, c'est le PLA, donc le polyacide lactique, qui est issu de l'amidon de maïs, par exemple, et qui est un polymère biodégradable dans des conditions de biodégradabilité. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas en fait un circuit de compostage suffisant pour pouvoir composter, par exemple, tout ce que l'on pourrait avoir comme bouteille ou
autre
de ce type.
Ce n'est pas un compostage domestique, c'est un compostage industriel encore.
Industriel,
oui, c'est ça.
Le compostage industriel aujourd'hui n'est pas organisé à une échelle suffisante pour pouvoir absorber en fait toute notre consommation, une nécessité de compostage. Et puis la troisième voie, qui est une voie qui en fait, aujourd'hui, est soutenu par les pouvoirs publics et fait l'objet d'investissements importants. Alors, un investissement aussi, c'est intéressant, par les chimistes, en fait, par ceux qui fabriquent les matières. On a parlé tout à l'heure de la responsabilité aussi des producteurs, finalement. Et il y a une voie qui est celle de revenir, en fait, au monomère, c'est-à-dire à recouper le polymère pour revenir à l'état initial des molécules qui la constituent, de façon à la refaire éventuellement ce même polymère ou des choses les intégrant, ces monomères, et qui vont en fait pouvoir donner des matières qui seront de même niveau, en fait, de même niveau de propriété que celles qu'on appelle les matières vierges, c'est-à-dire les polymères qui n'auraient pas été utilisés. Parce qu'aujourd'hui, en fait, une des vraies difficultés aussi de l'utilisation de polymères recyclés, par exemple, y compris dans des circuits de recyclage industriel, c'est les propriétés en fait du polymère après l'utilisation et recyclage qui sont toujours, on doit le dire, inférieures à celles des propriétés de la matière vierge. Et pour des applications industrielles qui nécessitent une qualité importante, il y a une exigence en fait d'une constante des propriétés, voire des propriétés améliorées, qui font qu'aujourd'hui, c'est un des domaines difficiles pour l'utilisation de polymères revalorisés.
Alors, le recyclage, Gilles Rouvrand, représente quand même une infime pourcentage du plastique, de l'utilisation du plastique, la destruction du plastique, l'incinération, on a 12%, et ça reste quand même encore les décharges et jetées dans la nature qui représentent le chiffre le plus important. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à recycler plus aujourd'hui?
Alors, c'est vrai que sur les grands ensembles, nous, ce qu'on dit souvent pour comprendre, c'est qu'en France, on a plus d'un tiers de nos déchets qui sont recyclés. Les deux autres tiers sont encore enfouis ou incinérés. Donc après, pour le plastique, on va avoir des pourcentages différents. Mais le souci, ça va être vraiment la question de la collecte de ces déchets. Ça, à Paris, par exemple, pour parler, on a une poubelle verte, une poubelle jaune, une collecte pour le vert séparée. Dans une poubelle jaune, vous avez à peu près, quand on visite des centres de tri, un tiers des déchets qui sont collectés dans cette poubelle qui ne vont pas être recyclés parce que vous avez un mélange de différents flux de déchets, par exemple des bouteilles avec de l'eau dedans qui vont souiller un peu de la matière papier ou des éléments qui sont trop petits qui sont mis dedans ou des erreurs de tri. Donc un tiers de cet effort de tri initial ne va pas être au final recyclé. Donc c'est là où on se confronte à une vraie difficulté, si vous voulez, comme on l'évoquait juste à l'instant, sur même des plastiques, par exemple, qui peuvent être biodégradables. Il faut qu'il y ait une quantité importante de ces plastiques qui puissent être regroupés de manière efficace à un endroit sans qu'il y ait trop de déplacements. C'est-à-dire, si je vais faire déplacer un camion pour collecter un kilo de bouteille, je fais 10 km pour le collecter, ça n'a pas de sens. Donc, c'est là où on se confronte vraiment à une logique de volume. Et moi, je crois vraiment à quelque chose où, si en amont, on arrive à avoir, comme on l'évoquait avant, des procédés de fabrication plus simples et sur un nombre de matières limitées, ça permettra en aval de dire que on a une série de collègues pour tel type de plastique. Quand je parlais tout à l'heure des barquettes alimentaires, des films plastiques, etc. Moins on a de matières différentes, plus ce sera simple au final de le recycler.
Voilà. Et donc vous proposez toutes ces boîtes de couleurs aux entreprises. Alors, parce que les entreprises sont au fond très très polluantes. Hein. C'est là qu'on peut le plus recycler, je dirais.
Alors un salarié de bureau, en moyenne, on dit génère environ 130 kg de déchets par an, donc 80 kg de papier. Donc après, vous voyez, c'est quand même encore le papier qui génère un grand flux en termes de poids. Après, on consomme beaucoup de choses au quotidien. Là, sur la table, on a un gobelet, on a un paquet de mouchoirs, etc. Donc, on consomme plein de petites choses au quotidien. Après, c'est, en disant, les déchets, par exemple, du bâtiment, vont générer énormément de déchets aussi. Donc voilà, il faut avoir vraiment en tête ces grandes masses de consommation et de génération de déchets en France. Pour les entreprises, il y a des solutions. Nous, on voit au quotidien, tout quasiment peut se recycler quand on est dans
tout
une entreprise.
Tout peut se recycler.
On a du mobilier de bureau, c'est de la matière sans plastique, des métaux, de l'acier qui peut être dedans, du bois qui peut être recyclé. Les papiers, comme je l'évoquais, ça se recycle. Tous les déchets de boissons, des gobelets, des canettes, des bouteilles, ça se recycle. Après, ce qui est intéressant, c'est que nous, on voit les entreprises qui commencent à se mettre au recyclage depuis quelques temps, depuis un an ou plusieurs années. Petit à petit, vont changer leur comportement. Nous, on leur envoie un reporting tous les mois leur indiquant bah, vous avez consommé, je sais pas, 10 kilos de bouteilles, ça fait l'équivalent de 500 bouteilles consommées ce mois-ci. Ils en prennent conscience. Donc, petit à petit, ils vont peut-être se dire ah, mais en fait, on va garder les bouteilles que pour les invités, que pour les personnes qu'on reçoit, parce que là, on n'a vraiment pas le choix. Et par contre, on va passer au mug, voilà. Autre chose, ou avoir des gourdes, comme vous avez là sur la table, pour les boissons. Voilà. Voilà, il y a plein de petites choses où on passe des capsules de café au marc de café. Donc, il y a une évolution des comportements qui se fait. Nous, c'est à nous de les accompagner, ou au niveau des lois, d'accompagner en justement forçant des industriels à produire de telle ou telle manière, avec plus d'éco-conception, comme on le mentionnait.
Frédéric Dan, et alors, les principaux, les grands secteurs consommateurs de plastique, on a dit l'emballage,
Comme ça a été dit tout à l'heure par téléphone, le plastique est partout. Il est partout, parce qu'il est plastique, c'est-à-dire qu'il se modèle à l'usage qu'on en veut. Pour la vie quotidienne, le plastique, il est dans les vêtements, le plastique, il est dans les emballages alimentaires, le plastique, il est dans les contenants alimentaires, dans les contenants de détachants, le plastique, il est dans le tableau de bord des voitures, dans la carrosserie des voitures, le plastique, il est... les matières plastiques, des monomères ou polymères, on les retrouve également sur les tickets de caisse, on les retrouve sur les couvertures des livres, on les retrouve pas. Enfin, le plastique, il est partout, mais en tout cas, en usage quotidien, pour moi, le premier volume qu'utilisent les familles et qui me semble complètement aberrant, c'est les bouteilles d'eau minérale. Enfin, je ne comprends pas pourquoi en France, on utilise autant, on achète autant d'eau en bouteille alors qu'on a une des eaux les plus propres et saines du monde. Si déjà on commençait par une communication habile, que faisaient avant les gouvernements pour vanter les mérites de l'eau du robinet? Eh ben, on n'aurait pas autant de familles qui, en moyenne, achètent, je crois, 2 packs d'eau par semaine. Ça fait quand même 2 packs d'eau, ça fait 12 bouteilles. Ben, ça ferait ça de moins recyclé.
Voilà. Alors, il y a aussi ces usages uniques qui sont quand même une utopie. Je pense, au rasoir BIC. Il y a plein d'objets comme ça. Et là, les législations diffèrent. Je vois par exemple qu'aux îles Baléares, on n'a plus droit aux cartouches imprimantes. On n'a plus droit. Ils vont encore beaucoup plus loin que nous.
Mais c'est logique. Ils sont sur un environnement contraint et le coût de ramassage, le coût de collecte, le coût de stockage surtout, il est exorbitant. C'est pas surprenant, effectivement. On pourrait interdire ça. Après, faut faire attention. On ne pourra pas tout supprimer, on ne pourra pas. C'est pas mal d'avoir un rasoir jetable. Le problème, c'est qu'on en utilise trop. Donc c'est une question de mode de vie et de pratique individuelle, et que derrière, ça complique largement les conditions du ramassage et du recyclage, et puis aussi par le fait qu'on ne voit pas le prix que cela coûte. Et ça, la loi Brune-Parson va changer ça. Il y aura une obligation d'affichage pour les produits que vous achetez du coût réel de recyclage. C'est avant tout une question d'éducation et de mode de vie. A-t-on besoin d'avoir autant de bouteilles de minérales? A-t-on besoin d'utiliser autant de rasoirs jetables? La réponse est sans doute non. En tout état de cause, faut faire attention au discours que l'on tient. Le zéro plastique, c'est impossible. Le zéro plastique, c'est strictement impossible. Si vous mettez du zéro plastique, vous n'avez plus d'usage médicaux, par exemple. Vous n'avez plus rien qui fonctionne dans les hôpitaux. C'est une question vraiment d'apprentissage. Et d'ailleurs, encore une fois, dans la loi, je vous en parle beaucoup parce que je l'ai lu et relu ce matin, il y aura une obligation dans les collèges de cours. Sur le plastique, de cours sur l'éco-conception, de cours sur, finalement on en revient presque à des cours d'économie domestique comme moi j'ai connu au collège il y a quelques années. Je suis pourtant pas si vieux, c'est abandonné, mais finalement c'est pas si mal.
Fin des emballages plastiques à usage unique en France, alors on parle de 2040.
Oui, mais en fait, ça va se mettre en place. Ça s'est déjà mis en place à partir du 1er janvier de cette année. Il y aura, en gros, tous les 5 ans, il y aura une deuxième étape au 1er janvier 2021. Et ensuite, tous les 5 ans, il y a des étapes successives jusqu'à 2040. 2040, c'était une erreur de communication. En fait, le projet de loi va beaucoup plus loin que ça, au sens où, en gros, en 2030, tout devrait être réglé. Et l'essentiel, si tout le monde joue le jeu, aurait été réglé en 2025. Après, tout dépendra des décrets d'application, tout dépendra de ce que le Conseil d'État en pensera. Sur le papier, la loi qui a été votée au Parlement et au Sénat est remarquable dans beaucoup d'articles, notamment les 6, 7 et 8. Ensuite, encore une fois, on verra ce qu'on va en faire. Mais en tout cas, dans les mots, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire que c'est une loi qui limite largement l'usage. En tout cas, c'est une loi qui contredit les habitudes qui, jusqu'à présent, faisaient qu'on fabriquait un produit sans se préoccuper de ce qu'il allait devenir. Et ben, ça, manifestement, c'est fini.
Gilles Rouvrant, cependant, la France est quand même mauvais élève en Europe en matière de recyclage. Pourquoi ?
Alors, peut-être juste pour repréciser, comme on dit souvent, le meilleur déchet, celui qu'on ne produit pas. Donc, on reste une société au global de consommation. Donc, ce qu'on évoque sur le plastique, de dire, quand vous parliez des bouteilles d'eau minérale, qu'on peut avoir une gourde, consommer l'eau du robinet ou autre, je pense qu'il est intéressant dans ce débat sur le plastique, c'est-à-dire, si on l'étend à l'ensemble de ce qu'on consomme au quotidien, de cette réflexion de l'avoir pour un peu tout. Est-ce que les vêtements qu'on achète, on a besoin d'acheter des nouveaux vêtements ? Est-ce qu'on peut racheter des fripes ? Est-ce qu'on peut acheter des vêtements qui sont en matériaux recyclés ? Etc. Donc voilà, c'est juste d'un point de vue global. Ensuite, en Europe, j'avais habité en Suisse quelques années. Par exemple, il y avait beaucoup plus de points de collecte à chaque coin de rue. On pouvait déposer des bouteilles en plastique, des canettes en aluminium. À chaque entrée de petite ville ou village, vous aviez une série de 10-15 conteneurs pour poser de l'aluminium, des vêtements, du bois, un ensemble de déchets. Donc on en revient à la facilité aussi de déposer ces déchets pour qu'ils soient bien recyclés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde est à peu près convaincu que c'est bien de faire des choses pour l'environnement. Le discours est plutôt passé, à moins d'être vraiment de très mauvaise volonté. Et nous, ce qu'on voit au sein d'une entreprise ou ce qui se passe dans la rue, dans l'espace public, c'est juste la facilité qu'on a à déposer quelque chose dont on sait qu'il est recyclable pour qu'il soit au final recyclé. Donc, c'est-à-dire, j'ai mon téléphone qui ne fonctionne plus. Ok, je sais très bien qu'il est recyclable. Où est-ce que je peux le mettre ? Bon, où est-ce que je vais à un magasin revendeur d'électronique ? Est-ce que je vais dans une gare où il y a un point de dépôt, dans un supermarché ? Pareil pour un vêtement, on voit des bornes de tri, de collecte de vêtements dans la rue, ça c'est bien. Donc c'est vraiment ça, cette question. Et ce qu'on voit dans d'autres pays, c'est qu'il y a énormément de points. Il y avait un débat sur les consignes en France. Est-ce qu'on démultiplie ces points ? Mais si c'est pour avoir juste quelques kilos de déchets collectés, que ça fait transport, enfin déplacer un camion, est-ce que c'est nécessaire ? Donc, je crois vraiment que ça dépend aussi des tailles de ville dont on parle. Si on est dans un espace urbain très dense, on peut démultiplier ces points. Des espaces urbains moins denses, là où il y a des déchetteries, par exemple, démultiplier ce qu'on peut apporter dans une déchetterie et surtout simplifier l'accès à ces lieux de collecte. C'est ça, les gens ont envie de le faire, il faut juste que ce soit simple. Si j'ai une pile chez moi, je sais qu'elle ne fonctionne plus, je veux la recycler. Si j'ai 500 mètres ou un kilomètre à faire, je ne vais peut-être pas le faire. Donc, voilà, plus on a de points de collecte, plus ce sera facile. Donc, je pense que c'est ça une des solutions. Encore une fois, je pense que les gens ont vraiment envie de le faire et de jouer le jeu. Il faut juste que ce ne soit pas trop compliqué.
Ces consignes plastiques dont on parle beaucoup en ce moment, Frédéric Danhé, dès 2023, le dispositif pour les bouteilles en plastique serait quand même appliqué. Qu'est-ce que vous en pensez ?
J'en pense pas grand-chose de bien. Alors, premièrement, ce que voulait faire Brune Poirson sur la consigne, quand vous lisez le projet de loi au départ, c'est au mot près, à la virgule près, ce que le syndicat des producteurs d'emballages alimentaires avait écrit, qui l'ont tenu la main. Donc, mais hormis ça, quand vous interrogez les maires et les responsables des syndicats d'ordures ménagères, ils sont vent debout. Pourquoi ? Parce que ça remet en cause d'un coup la consigne, le modèle économique très fragile de la collecte et du recyclage des déchets à l'échelle d'une commune. Et puis ensuite, c'est très difficile à appliquer parce qu'à l'échelle de Paris, il faudrait 8000 points de collecte. On va les mettre où ? On ne sait pas. Sur la voirie, c'est difficile parce que ça entraînerait forcément du trafic et de la fraude, comme il y a eu au tout début, vous savez, de l'imposition du recyclage des frigos, des machines à laver, etc., qui se retrouvaient, pour faire très court, et pas que là, dans des camps de Rome, sur le bord de la 86 à Paris, pour ensuite être exportés illégalement vers l'ex-Yougoslavie et l'Afrique. Et puis ces points de consigne devraient être une obligation, dans le projet de loi initial, dans tous les dépôts, les ventes, dans tous les magasins qui vendent du plastique, y compris les toutes petites surfaces. Ce qui est impossible pour les petites épiceries, ce n'est pas l'arbre du quartier qui va récupérer vos bouteilles en consigne. Donc en fait, il y a une impossibilité technique. Et en fait, derrière tout ça, c'est on recycle pour refabriquer. Et ce n'est pas anodin. Vous pouvez bien vous dire que si le syndicat France Boisson qui fabrique les bouteilles en plastique était à l'origine de ce projet de loi, c'est surtout pas pour moins vendre de bouteilles alimentaires, de bouteilles en plastique. C'est pour continuer à en vendre avec la vertu avec la vertu de la consigne. À mon sens, c'est une connerie, cette consigne. Et d'ailleurs, ça a été un peu vidé de sa substance dans... J'ai lu le projet de loi, là. Le mot consigne n'apparaît qu'une seule fois. Après, ça peut revenir dans les décrets.
Allez, on parle du plastique ce matin sur Radio Notre-Dame. Comme vous l'entendez, nous sommes avec Frédéric Danhaye, avec Gilles Rouvran et avec le professeur Jean-François Gérard à Lyon. On se retrouve juste après cette petite pause musicale.
Radio Notre-Dame.
Parlons du plastique. Ce matin, on se pose la question de sa substitution. Peut-on, au fond, le remplacer? Peut-on vivre sans? Professeur Jean-François Gérard, quels sont les secteurs aujourd'hui dans lesquels il serait inenvisageable de se passer du plastique?
Il y en a énormément, en fait, autour de vous. Quand je vous ai dit, ça a été répété, en fait, on a effectivement tout le secteur du textile, mais tous les revêtements qui protègent les objets, les structures, etc. Enfin, on a un usage, il paraît vraiment difficile de se passer des polymères. Par contre, je suis assez convaincu qu'un bon usage des polymères au bon endroit, sur la bonne fonction, le bon usage, c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Et pour compléter ce qui vient d'être dit aussi, je pense que scientifique des sciences dures, on aime objectiver le débat avec des chiffres et des approches qu'on appelle des approches systémiques, c'est-à-dire de systèmes complexes où on voit bien que la question du remplacement, de la substitution des polymères par d'un retour ou un autre type de matériau n'est pas si simple en fait et dépend énormément de l'usage, du temps d'usage. De la rotation, etc., des matériaux. Et en fait, je pense qu'on n'a pas aujourd'hui, on lance des lois, il y a beaucoup de débats, mais qui sont très peu objectivés par ce qu'on appelle en fait les analyses de cycle de vie aujourd'hui. On connaissait par exemple la bouteille en plastique, en PVC, qui conduisait puisqu'on incinérait à l'époque au plus acide et qui contribuait à cela. Aujourd'hui, le PVC, c'est un élément essentiel pour la construction. On fait des fenêtres avec, d'ailleurs, vous aviez un encart publicitaire tout à l'heure qui est sur les volets et fenêtres en PVC. Mais par contre, une fenêtre, c'est au moins 10 ans d'usage, en fait. Et c'est quelque chose de parfaitement identifié en quantité importante. Donc, ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie qui prend à la fois les aspects techniques, y compris le coût en énergie du camion qui vient collecter les déchets, faut-il le faire ou pas, etc. Tout cela, c'est quelque chose qui doit être beaucoup plus travaillé pour pouvoir en fait définir les vraies mesures qui sont nécessaires et les vrais points importants à traiter dans ces questions de place des plastiques dans notre société.
Alors, on parlait des bioplastiques comme solution d'emballage alternative. Est-ce l'avenir quand même ? Est-ce qu'on pourrait aller plus loin ? Qu'est-ce que vous pensez ?
Écoutez, aujourd'hui, en fait, les bioplastiques, la définition des bioplastiques, d'abord, il faut avoir cela en tête. Bioplastique, ce n'est pas biodégradable. Ça veut dire bioplastique, c'est issu de la biomasse renouvelable, en fait.
Ce qui veut dire...
La biomasse renouvelable, c'est les plantes, donc c'est les végétaux, et puis c'est éventuellement les déchets animaux, c'est dans nos abattoirs, on connaît, là, les cols depuis longtemps, en fait, cols de poissons ou d'autres, en fait, ou la caséine du lait aussi, dont on fait des polymères depuis longtemps. En fait, donc, on peut utiliser la biomasse, et pour faire des bioplastiques, les scientifiques ont en fait développé nombre de synthèses de polymères issus de la biomasse, c'est-à-dire prenant des éléments de la biomasse issus de bioraffineries, non plus de pétro-raffineries à ce moment-là, et pour faire en fait des choses qui sont... On utilise cela de manière un peu galvaudée. Je vais prendre un exemple qui est le plus mauvais exemple de ce qu'on peut faire dans le polymère issu de la biomasse. C'est le polyéthylène. Le polyéthylène, donc, c'est la polymérisation de l'éthylène, l'éthylène qui est issu de la pétrochimie. Eh bien, pour avoir un polymère vert, aujourd'hui, des sociétés font, en fait, en Amérique du Sud en particulier, des polyéthylènes biosourcés, donc qu'on peut qualifier de bioplastique, puisque après datation par le carbone 14 du carbone contenu dans ce polymère, il est effectivement issu de la biomasse. Il est en fait issu de l'éthanol, de la canne à sucre et éthanol que l'on transforme en éthylène pour le polymériser et faire du polyéthylène, mais qui a exactement la même structure, les mêmes propriétés, les mêmes défauts de recyclabilité que le polymère issu de la pétrochimie. Donc il faut faire très attention quand on parle de bioplastique. À côté de cela, on a des polymères, je vous en ai cité un, le PLA, le polyacide lactique, qui est issu de l'amidon, en fait, du maïs, par exemple, qui est biodégradable, et lui, il est issu de la biomasse, donc on peut le qualifier de bioplastique. Je crois que jusqu'à présent, pour terminer, on est capable de faire beaucoup de choses issues de la biomasse, à partir donc d'éléments, de briques issues de la biomasse, donc qui sont des monomères. Jusqu'à présent, beaucoup de choses ont été travaillées pour faire des polymères les mêmes, ou presque, que ceux que l'on utilise et que l'on a de manière, par la synthèse de la pétrochimie, pour faire en fait l'équivalent issu de la biomasse. Je vous ai parlé du polyéthylène, qui est le plus mauvais exemple. Le PLA est un polymère de structure assez proche du PET, en fait, qui est issu de la pétrochimie et que l'on donc utilise pour faire des bouteilles biodégradables, un polymère plus vertueux de ce côté-là. Et puis, je pense que l'avenir, ce sera en fait de ne pas avoir ce qu'on appelle des cultures dédiées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, si je prends le polyacide lactique, le fameux PLA, il est issu, en fait, je vous l'ai dit, de l'amidon de maïs. Donc, on a des plantations qui sont dédiées pour faire de l'amidon, pour faire ce polymère. Et en fin de compte, on sait que la biomasse renouvelable, on n'en utilise qu'une infime partie, en fait. Et qu'on a des déchets de la biomasse, déchets par exemple d'industrie cafetière, d'industrie du bois, de l'agriculture, etc., qui représentent une masse considérable, en fait, de ressources que l'on
pourrait utiliser. Et aujourd'hui, pas mal de scientifiques travaillent sur ce domaine où, en fait, on va considérer une biomasse indifférenciée qui ne sert pas pour nourrir les populations, qui ne risque pas, dans certaines parties du monde, d'entrer en conflit avec les problèmes de faim dans le monde ou, de, oui. ou d'accession en fait, à l'alimentation, et qui seront cette voie de prendre un petit peu toute la biomasse disponible, qui est aujourd'hui absolument pas valorisée, est une voie vraiment intéressante à prendre. Et je pense que dans le futur, c'est réellement de ce côté-là, si on veut aller vers les bioplastiques, c'est-à-dire avoir des polymères, encore une fois, issus de la biomasse renouvelable, aller vers une ressource qui est extrêmement abondante, mais assez mal définie, en fait, voilà. ou très variable d'un point de collecte à un autre.
Frédéric Danhé.
C'est tout a été dit. Effectivement, c'est l'aspect. Enfin, ce qu'il faut avoir en ligne de mire, c'est l'analyse du cycle de vie. Analyse de cycle de vie qui tient compte de tout, de la fabrication jusqu'au recyclage, en passant par la réutilisation et de l'usage réel, comme il vient d'être dit. Du PVC, s'il est utilisé dans une barquette alimentaire en 15 secondes, et du PVC utilisé dans une fenêtre qui sera démontée en 10 à 20 ans, c'est pas du tout le même impact sur l'environnement. Et deuxièmement, il faut faire attention des fausses bonnes solutions, enfin des solutions qui semblent écolo. Alors l'amidon de maïs, c'est bien joli, mais tout dépend effectivement, un, si c'est une culture dédiée, et de comment la culture est faite. Si c'est pour se retrouver avec la culture dédiée, où les sols sont trop labourés, où on dessouche les haies pour pouvoir faire passer le tracteur, et où on pulvérise un peu trop, je ne vois pas quel intérêt. C'est pareil sur la canne à sucre, de l'éthanol issu de canne à sucre ou de betterave en production ultra-intensive dont on connaît les impacts environnementaux, j'en vois pas l'intérêt. Puis il faut jamais oublier, moi j'appelle ça le syndrome du plombier. Vous savez, en Europe, on a interdit les tuyaux en plomb, très bien, à cause du saturnisme, sauf que le saturnisme était connu, sauf que la toxicité du plomb est connue. Ces tuyaux ont été remplacés par des tuyaux en PVC dont on ne connaît absolument pas, on n'arrive pas à modéliser, on ne sait pas la toxicologie sur le long terme. Donc il faut faire attention aux fausses bonnes solutions. Parfois, je me dis, je vais être un peu provocateur, qu'il vaut mieux conserver un produit dont on maîtrise à peu près la toxicologie et l'écotoxicologie plutôt que de le remplacer par des produits qui semblent bons, mais dont on ne maîtrise absolument rien. C'est le cas du bisphénol A qui a été remplacé par je ne sais plus lequel, le B ou le C qui s'avère bien pire. C'est le cas pour les phtalates. Par quoi on remplace un peu trop vite, des produits qui sont certes problématiques, mais qu'on peut à peu près cadrer. Il faut faire vachement attention à ça. Et encore une fois, voilà, l'analyse du cycle de vie permet véritablement de faire un choix sur le rapport coût-bénéfice des produits qu'on utilise. Il y a des produits qu'on doit encore utiliser malgré les défauts, mais si les défauts, on arrive à les cadrer par une bonne filière de recyclage, je ne vois pas où est le problème.
Professeur Jean-François Gérard, pour vous, le plastique restera bien sûr avec d'autres utilisations et de meilleures utilisations, mais on ne peut pas s'en passer, on est d'accord.
J'aimerais pouvoir dire qu'on peut, on peut s'en passer. Non, j'aimerais pas. En fait, c'est une mauvaise réponse. En fait, les polymères, comme tous les types de matériaux, le verre et le papier est aussi un matériau que l'on met en avant, mais qui pèse énormément sur l'environnement dans sa fabrication et dans son recyclage, etc. Donc, faut faire attention. Je pense que les plastiques peuvent contribuer, en fait, et trouver, s'ils sont à leur juste place, à un bon équilibre en fait de développement et de nos sociétés, etc., et de réponse aux problèmes que l'on a. On a énormément, ils contribuent énormément vraiment à de grands enjeux sociétaux. Aujourd'hui, on se transporte. Le transport, c'est parce qu'il y a des polymères qui sont plus légers que le métal ou le verre pour alléger nos véhicules et émettre moins de CO2. Ça paraît difficile de revenir à l'acier. Sur l'environnement, certes, ils pèsent sur l'environnement, mais ils y contribuent aussi parce qu'ils permettent de filtrer, etc., d'avoir par exemple des géotextiles qui sont à l'extérieur dans des bassins de rétention qui vont retenir des polluants, etc. Sur la santé, c'est évident que les polymères sont absolument incontournables dans plein de choses, voilà. Donc en fait, s'ils sont à la bonne place, en fait, et s'ils sont utilisés correctement, si on sait aussi éduquer, et ça c'est un problème de culture, peut-être les scientifiques d'ailleurs des sciences humaines et sociales ne sont-ils pas assez intéressés à cela, en fait, à enseigner la complexité sur ce sujet, mais sur d'autres aussi, et donc Les polymères sont là, seront là encore longtemps, mais il nous faut utiliser, comme toute ressource d'ailleurs sur Terre, en fait, savoir les utiliser à bon escient, pour le bon usage.
Voilà.
Voilà.
Voilà. Alors, en conclusion, merci.
De conclusion pour moi.
Voilà. En conclusion aussi de notre émission qui touche presque à sa fin, l'un des moyens de réduire les déchets plastiques est d'en réduire la production et surtout en réduire la consommation. Là, on va parler aux consommateurs. Est-ce qu'on peut éduquer le consommateur ?
Alors, mais
bouge quand même. Hein.
Oui, mais en donnant, justement, enfin, avec ce type d'émission et puis tout ce qu'on entend dans les médias, etc., actuellement, on se rend compte qu'il y a une vraie volonté d'agir concrètement. Quand on parlait tout à l'heure de greenwashing un petit peu, dans les années 2000, je pense qu'il y avait une logique où on parlait beaucoup, on agissait peu. La crise de 2008 est aussi passée par là, donc beaucoup d'entreprises ont essayé de faire des réductions sur leurs coûts et se posaient des questions sur comment recycler énormément de choses qu'elles produisaient, qu'elles jetaient jusqu'alors. Et pareil, au niveau particulier, on se rend compte que les gens cherchent vraiment des solutions dans leur quotidien, concrètes, quand on parlait des bouteilles d'eau tout à l'heure, des gobelets en entreprise, quand je vois du marc de café de plus en plus au lieu des capsules de café. Mmh. Voilà, il y a beaucoup de choses où le plastique peut être remplacé dans les emballages qu'on achète, enfin, les produits, leur manière dont ils sont emballés, on voit de plus en plus de carton qui met le plastique de côté. Donc je pense que voilà, les gens sont demandeurs, il y a de plus en plus de solutions qui existent, mais il faut faire ça avec, il ne faut pas moraliser le consommateur avec ces choses-là, plutôt leur apporter des solutions positives, aller l'avant, les accompagner en leur apportant le maximum d'informations. Oui. Plus on comprend les choses, mieux on va agir.
Gilles Dan, et quelques gestes à adopter au quotidien pour réduire sa consommation de plastique. Un petit cadeau à nos auditeurs, quelques idées.
Ah bah c'est les emballages alimentaires pour l'essentiel. Hein. C'est,
donc le vrac.
Bah c'est le vrac, oui, non, parce que enfin, c'est parfois très chiant. Faut transporter ses propres contenants en verre, par exemple, ou en plastique un peu épais. Non, je dirais simplement oublier les bouteilles de minéral, acheter moins de produits ménagers, puis en plus la qualité de l'air intérieur s'améliorera chez vous.
Oui, c'est sûr.
Sur les vêtements, si vous avez besoin de faire les soldes, voilà, 2, 3, 4 fois par an. Enfin, c'est tout bête, c'est tout bête. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de ça? Ce qui est très intéressant, c'est de prendre conscience. C'est simplement noter par semaine le nombre de fois on est obligé de sortir la poubelle emballage. C'est très révélateur. J'ai fait ça chez moi et j'ai demandé à mes enfants, famille recomposée, à mes beaux enfants, de plier les déchets plastiques, d'appuyer dessus pour voir ce que ça représentait en temps perdu. Ben, je peux vous dire que ça a tout changé.
Voilà, c'est notre fin de notre émission. Merci à vous, Gilles, d'être venu nous parler des joyeux recycleurs et du recyclage. Il faut dire aussi rapidement que les personnes qui travaillent pour vous sont des personnes en insertion, entre autres, et il faut le souligner. Voilà, pas toutes, bien sûr, mais certaines. Vous ouvrez cela aussi. Frédéric Danhé, merci à vous.
Merci.
Et surtout, merci à vous aussi, professeur Jean-François Gérard, d'être resté avec nous toute cette heure depuis Lyon. Pour ce développement vraiment très intéressant, je vous invite à aller voir le site des Joyeux Recycleurs, surtout si vous êtes une entreprise et que vous pouvez mieux faire. À bientôt.